Bonjour, nous sommes en présence de Guillaume Lapeyre, auteur du manga City Hall, que nous rencontrons lors de la Japan Expo et qui va donc nous parler un peu plus précisément de son manga qui en est arrivé à son troisième tome et qui va être renouvelé pour une seconde saison chez Ankama.
Oui, coucou à tous, merci de me recevoir, Bertrand.
Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était en 2012. Le premier tome venait de sortir et depuis, on va dire que 2-3 trucs ont changé. Maintenant, tu as un stylo plume plaqué or avec une plume en argent et un petit dispositif qui crache de la fumée de temps à autre qui te permet de faire les dessins sans lever le pied et dédicace. Je crois t'avoir vu arriver à bord d'une Silver Ghost et il me semble que Rémi et toi avaient acheté un petit manoir en Angleterre histoire de pouvoir continuer à faire City Hall dans les meilleures conditions possibles.
Ouais, bah Bruce Wayne a été très arrangeant au niveau du prix d'achat. C'est une belle maison, il y a beaucoup de pièces, donc du coup on peut ranger plein de mangas et plein de comics, parce que Rémi est très comics. Voilà, juste la Batcave, on n'a pas encore eu le temps de l'aménager. Bon, je vous rassure tout de suite, hein, notre niveau de vie n'a pas changé, je travaille toujours avec des bics et j'ai toujours une Ford Fiesta.
Alors, imaginons, fait improbable, que quelqu'un ne connaisse pas City Hall. Peux-tu lui expliquer en quoi il a raté finalement l'affaire du siècle?
L'affaire du siècle. Alors en gros, je vais raconter le pitch, le début, hein, je dévoile rien du tout. On est à Londres en 1902, dans un Londres steampunk. Et le ministre des Finances de Londres, du gouvernement de Londres, est assassiné dans des circonstances plus que mystérieuses. L'inspecteur en chef de la police est dépêché sur place parce que c'est quelqu'un d'important qui vient de mourir quand même, d'être assassiné. Et sur son cadavre, il découvre quelque chose qui le terrifie, c'est une feuille de papier, à moitié calcinée, avec quelque chose de griffonné dessus, quelque chose d'illisible. Oui.
Le compte en banque de Jérôme Cahuzac en Suisse ?
Les yeux dans les yeux, je pense qu'il n'a jamais eu de compte, il n'aura jamais de compte en banque ailleurs. Voilà, je pense que ça a été dit et redit, il faut lui faire confiance. Bref, quoi qu'il en soit, il arrache la feuille ni vue ni connue, il fonce à la mairie de City Hall, City Hall. Veut voir le maire de toute urgence, déboule dans son long bureau, pose la feuille sur la table et dit « Le monde tel qu'on l'a connu a cessé d'exister et le maire s'effondre à nouveau devant cette feuille de papier. » Et en fait, on met en place un univers où le papier est interdit et l'écriture manuscrite proscrite depuis plus de 200 ans puisque tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on décrit fidèlement sur le papier prend vie. Donc entre les mains de personnes mal intentionnées, ça peut devenir une arme extrêmement dangereuse. Et là, la police est complètement dépassée face à un criminel d'un nouveau genre qui possède du papier, qui sait s'en servir et qui s'en sert pour tuer. Et face à cette menace extraordinaire, le maire sort de sa poche un joker qu'il n'aurait jamais espéré jouer, mais là, il n'a pas le choix. Il décoche son téléphone et dit « Appelez-moi Jules Verne ». Et Jules Verne, jeune écrivain numérique d'une vingtaine d'années, arrive dans son bureau avec son jeune assistant ou son porteur de machine à écrire numérique, puisqu'il n'y a plus de papier, il y a Internet en 1902, qui s'appelle Arthur Conan Doyle, qui est encore étudiant en médecine, qui n'a pas encore écrit la moindre ligne, mais qui est déjà un romancier prometteur, selon son maître Jules Verne, et on leur donne le dernier carnet super secret qui est enfermé dans les coffres forts de City Hall. C'est genre un calepin avec 20 pages et un crayon, c'est tout ce qui reste. Ils vont devoir descendre dans la rue, enquêter, ça c'est plutôt le travail d'Arthur Conan Doyle qui a déjà le goût pour les enquêtes policières, trouver l'identité de ce méchant, le débusquer, et le job de Jules Verne ça va être de le contrer avec ses propres créatures issues de son imagination. Ce seront des robots mécaniques dans le cas de Jules Verne et plutôt des êtres humanoïdes dans le cas de Black Fall. Et voilà, ils vont se batailler à coups de carnet. J'aime bien l'idée. Quand Rémi m'a dit le pitch, je lui ai dit, écoute, c'est moi qui le fais, il n'y a pas le choix, t'as pas le choix. C'est moi. Non.
Alors justement, ce qui est fantastique, c'est qu'on tombe sur un énorme mélange des genres. Uchronie, vu comme tu le dis, l'histoire a complètement divergé suite à un fait qu'on peut qualifier de magique. L'écriture donne vie, le rêve de tout auteur finalement. Suite à cela, une énorme guerre va subvenir, mais on ne peut pas trop en dévoiler vu que c'est quand même un des éléments clés de l'intrigue. Tout le côté steampunk, l'écriture est bannie, on est passé au tout numérique, Internet est arrivé avant l'heure. Un peu tout le mythe du rétro-futur, finalement le futur qui s'installe beaucoup plus tôt dans le passé. Et on tombe sur une galerie de personnages absolument fantastique. Comme le disait, alors je ne sais plus si c'est Bob Kane ou un de ses remplaçants, pour tout héros, ce qu'il faut, c'est automatiquement une super galerie de méchants pour pouvoir faire vivre au mieux l'aventure. Et là, on peut dire qu'on a été servi.
Oui, est-ce qu'on peut alors dans les méchants, qu'est-ce qu'on a? On a un allié de poids pour Black Fall, enfin un allié de poids, je parle pas de son poids physique, hein, qui est Mary Shelley. Et son paper cut, puisque les paper cuts, c'est ce qu'on appelle les créatures faites à partir de papier, ça s'appelle des paper cuts. Il y a plusieurs niveaux de paper cuts, du basique au autonome,
très évolué.
Voilà, qui prend des décisions tout seul, etc. Le basique étant une marionnette pour son auteur, qui doit écrire systématiquement ce que l'action qu'il doit faire, et ensuite il l'a fait.
Et puis le dernier stade étant ce qu'on peut qualifier, pour les amateurs de SF, un répliquant.
En gros, c'est ça. Quelqu'un qui peut très bien se faire passer pour un être humain, qui a son libre arbitre, ses propres décisions, qui peut se retourner contre son créateur, qui est complètement incontrôlable, comme un humain, normal. Voilà, donc Mary Shelley a, bien évidemment, son paper cut, c'est Frankenstein. On a, ce qu'on peut dire, dans le troisième tome, il y a Lovecraft qui fait son apparition. Et Lovecraft, il vaut mieux pas lui donner du papier et du crayon.
Et d'ailleurs, déjà, à l'origine, c'était une mauvaise idée en soi.
Lovecraft qui est au service de Lincoln, qui est donc un agent du gouvernement américain secret, dans notre série en tout cas, qu'on retrouvera dans le second cycle. Et on en apprendra un petit peu plus sur pourquoi il est rentré au service de Lincoln et qu'est-ce qui l'a motivé et ce qu'il a fait.
Alors là où c'est fantastique, vu que tu parles de Lincoln, de Lovecraft, de Mary Shelley, on peut rajouter Amelia Earhart, le maire de City Hall, Malcolm Lytton, qui signe bizarrement Malcolm X.
Bien sûr.
Donc, là où c'est bien, c'est qu'il y a vraiment un mélange de plusieurs personnages historiques de différentes époques. Et la tambouille prend, la sauce est magique. On a droit à quelque chose qui se situe entre le shonen, vu qu'il y a énormément d'action, des bastons absolument grandiloquentes que ne renierait pas Hollywood. J'allais même dire, Guillermo del Toro s'est peut-être inspiré de toi pour Pacific Rim.
Guillaume, si tu m'écoutes, on a le même prénom en plus, donc je t'adore. Je suis grand fan de tous ces films.
Bienvenue au club. Et là où c'est super, c'est qu'en trois tomes, en une saison, tu réussis vraiment à installer un univers foisonnant, fantastique, et avec une révélation finale qui préfigure d'ores et déjà une seconde saison et qui est juste fantastique.
Ben merci. Bon, ça c'est le travail de Rémi. Hein. C'est Rémi qui s'est sorti de sa tête et voilà, c'est un scène.
Ah ouais, mais à mettre en scène.
À mettre en scène, oui, c'était pas facile. Mais alors, la particularité de Rémi, pour des histoires de ce type-là, et on avait fait ça pour Explorer, notre précédente série, il avait la fin dès le début. On avait deux fins, en fait, la fin fermée et la fin ouverte, au cas où on n'irait pas plus loin que le troisième volume. Heureusement pour vous, on a choisi la fin ouverte parce que voilà, ça a bien marché et qu'on a envie de continuer. Donc on avait ça dès le début, et le jeu de Rémi, comme c'était une enquête policière, il fallait qu'il ait la solution finale pour pouvoir égrener les indices au fur et à mesure des pages. Et comme normalement, quand tu sais la fin, tu le relis, tu peux voir à ce moment-là et dès les premières pages, ah oui, mais en fait, oui, c'était évident. Il a exactement le même système d'écriture pour la suite. On a déjà la fin, les deux fins. Fin fermée pour le sixième ou le septième, révélation exclue, on ne sait pas. Peut-être qu'on va faire un cycle de quatre. Il y a beaucoup de choses à traiter.
Donc un énorme tome final.
Ouais, voilà.
De toute façon, Évangélion, tout sera révélé, les anges vont nous mettre à la gueule, etc.
On a les deux fins, on a la fin fermée à nouveau, du 6e ou du 7e, et puis la fin ouverte au cas où.
Alors, toute l'action du premier cycle se situait à Londres, enfin on pourrait même presque qualifier ça de New London. Est-ce que l'action va changer? Est-ce qu'on va aller se promener ailleurs, voire même carrément dans d'autres pays? Est-ce qu'on va rencontrer à nouveau d'autres personnages, j'allais dire, qui sont pas forcément issus de la même époque ou autre? Quelques petites révélations?
Oui, alors effectivement, il va y avoir du voyage dans l'air, puisque pour des raisons d'intrigue, je ne sais pas si je peux en dévoiler à quel moment va être diffusée l'interview.
D'ici la semaine prochaine.
D'ici la semaine prochaine? Bon, alors pour ceux qui n'ont pas lu les trois tomes encore, je vais peut-être pas dévoiler le final du troisième qui mérite d'être passé sous silence.
Non, courez acheter les trois tomes et écouter l'interview après.
Ok. Donc en gros, ce que je peux dire, c'est qu'il y a Jules Verne, Arthur Conan Doyle et Amelia Earhart qui vont devoir se déplacer à Paris. Et on va faire un pari, Londres était steampunk, Paris est complètement industriel. Je vais prendre les véritables bâtiments de la ville de Paris. À partir du deuxième étage, je vais faire un enchevêtrement de cheminées et de fumée noire. Clin d'œil au beau temps de Paris, mais amoureux. On est dans une ville très industrialisée où le lobby du charbon et de la vapeur est quasiment prédominant. On est près d'un Blade Runner, on va dire, ce genre d'ambiance. Et parmi ça, il y a deux personnes qui proposent une solution alternative. C'est Tesla et Edison. qui veulent, eux, mettre l'électricité dans le foyer, dans chaque foyer de la ville de Paris, qui ont leurs deux entreprises.
Et on... la fameuse guéguerre Tesla Edison, en fait.
Exactement, courant alternatif, courant continu. Le truc, c'est que Jules Verne va avoir besoin de Tesla et Tesla va avoir besoin de Jules Verne pour accomplir son œuvre finale. Autant dans le premier cycle, on était dans la période du temps écrit contre numérique ou écrit avec numérique, parce que Rémi et moi, on est plutôt sur l'écrit avec le numérique. Je pense que l'un ne chassera pas l'autre, mais les deux peuvent très bien coexister. Et pour ce second cycle, on a plutôt choisi de... C'est en toile de fond, c'est pas le truc de l'intrigue, mais on a choisi... Il a choisi d'un autre thème dans l'air du temps, qui est les nouvelles énergies propres contre les énergies fossiles. Voilà, donc on va être là-dedans, dans cette bataille entre le lobby du charbon, l'avènement de l'électricité. On va visiter Paris, Jules Verne va en savoir plus sur sa propre histoire. On va apprendre beaucoup de choses sur Lovecraft, ses motivations. On va fouiller le passé de Amelia Earhart. Il va y avoir de nouveaux écrivains. Donc une grosse révélation. Et un personnage féminin complètement inconnu. Je ne vais pas dévoiler l'identité ici. Nouveau personnage féminin, parce que ça manque de filles quand même. Et celle-là, elle est redoutable. Plus, donc là où je disais, peut-être qu'on va en faire 4 pour ce cycle-là, c'est que comme on a une partie des personnages qui vont se déplacer à Paris, il se passe quand même des choses à Londres pendant ce temps. Puisque Black Fall est toujours emprisonné dans la tour de Londres, le Malcolm Middleton ne va pas bouger, Mary Shelley ne va pas bouger, il va se passer un petit jeu de pouvoir entre la couronne d'Angleterre et la mairie de City Hall qui est intéressant de traiter. Pour ça, peut-être qu'il va falloir un quatrième album, sinon ça va faire un peu court.
D'accord. Voilà. Une idée de la date de sortie justement de ce quatrième tome de City Hall?
Date même précise, c'est le 24 octobre. Voilà, ça arrive
une semaine. Ça t'arrive de dormir la nuit?
Oui. Oui, j'arrive à dormir.
En tout cas, merci beaucoup. Merci de continuer à nous faire rêver ou cauchemarder, ça dépend ce que tu mets en scène. Et le mot de la fin, Gru?
Gru, oui, je rêve d'une application traducteur Human to Gru. Peut-être que ça va se faire, je ne sais pas. On va voir.
Merci beaucoup et à très bientôt.
À très bientôt. Merci beaucoup.